From the Conference Center at Temple Square.
Diffusé depuis le centre de conférence de Temple Square à Salt Lake City, voici la session du samedi matin de la 189e conférence générale d'avril de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, avec des orateurs choisis parmi les autorités générales et les officiers généraux de l'Église. Les chants de cette session seront interprétés par le chœur du tabernacle à Temple Square. Des membres et des officiers de l'Église du monde entier se réunissent pour recevoir les conseils et les enseignements de leurs dirigeants. Cette émission est diffusée à titre de service public par Bonneville Distribution. Toute reproduction, enregistrement, transcription ou autre utilisation de cette émission sans autorisation écrite est interdite. Dallin Oaks, premier conseiller dans la première présidence de l'Église, dirigera cette session. Mes frères et sœurs, nous vous souhaitons la bienvenue à la session du samedi matin de la 189e conférence générale d'avril de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Nous souhaitons une bienvenue chaleureuse aux membres et amis de l'Église qui assistent à cette conférence, où qu'ils soient dans le monde. Le président Nelson, qui préside, m'a demandé de diriger cette session. Les chants de cette session seront interprétés par le chœur du tabernacle à Temple Square et la musique sera dirigée par Mac Wilberg avec Richard Elliott et Andrew Unsworth à l'orgue. Le chœur a ouvert cette session en chantant « Vivons ce bonheur » et interprétera à présent « Saint en avant, armé de foi en Christ ». Stephen Snow, des 70, fera ensuite la prière d'ouverture, puis le chœur chantera « Ce jour, au cœur, j'ai du soleil ».
Thank you. Notre cher Père Céleste, nous te remercions ce matin pour le privilège que nous avons de nous réunir en tant que saints dans les églises et les maisons à travers le monde. Nous sommes reconnaissants pour cette force de nous réunir et nous te prions pour que nous puissions gagner de la force les uns avec les autres en participant à cette conférence et à cette session. Nous nous prions pour nos dirigeants, pour notre prophète et ses conseillers, pour les membres du Collège des 12. Nous sommes reconnaissants pour toutes les personnes qui ont fait que cette conférence soit possible, qui ont réalisé tant de choses et qui ont aidé à faire que cet événement soit merveilleux. Nous prions pour ceux qui nous ont bénis, qui nous bénissent avec la musique pour inviter l'esprit. Nous prions pour ceux qui vont parler aujourd'hui. Nous prions pour que nos cœurs soient ouverts et que nous puissions apprendre et repartir de cette conférence aujourd'hui, décider à faire mieux dans nos vies. Nous prions pour ces choses. Au nom de Jésus-Christ. Amen.
We will now be pleased to hear from Elder Ulises Soares of the Quorum of the Twelve Apostles. He will be followed by Sister Becky Craven, second counselor.
Nous aurons à présent le plaisir d'entendre Ulises Soares du Collège des Douze Apôtres. Il sera suivi de Becky Craven, deuxième conseillère dans la présidence générale des jeunes filles. Ensuite, Brooke Hells des 70 nous adressera la parole.
My dear brothers and sisters, what a great joy.
Mes chers frères et sœurs, quelle joie d'être de nouveau ensemble ici à l'occasion de cette conférence générale de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, sous la direction de Russell Nelson, notre prophète bien-aimé. Je vous témoigne que nous aurons l'honneur d'entendre la voix de notre Sauveur Jésus-Christ à travers les enseignements des personnes qui prieront, chanteront et prendront la parole lors de cette conférence pour répondre aux besoins de notre époque. Comme cela est rapporté dans le livre des Actes, Philippe, le diacre, enseigna l'Évangile à un certain Éthiopien, eunuque, responsable de tous les trésors de la reine d'Éthiopie. Pendant le trajet de retour de Jérusalem, où il s'était livré au culte, il lisait le livre d'Ésaïe. Poussé par l'Esprit, Philippe s'approcha de lui et dit, je cite, « Comprends-tu ce que tu lis ?» Il répondit, « Comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide ?» Alors Philippe, ouvrant la bouche et commençant par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Fin de citation. La question posée par cet Éthiopien est un rappel de la mission divine que nous avons tous reçue de chercher la connaissance et de nous enseigner les uns aux autres l'Évangile de Jésus-Christ. En fait, dans le cadre de l'apprentissage et de l'enseignement de l'Évangile, tantôt nous sommes comme l'Éthiopien et avons besoin de l'aide d'un instructeur fidèle et inspiré. Et tantôt nous sommes comme Philippe et avons besoin d'instruire et de fortifier les autres dans leur conversion. Lorsque nous cherchons à apprendre et à enseigner l'Évangile de Jésus-Christ, notre objectif doit être de faire grandir la foi en Dieu et en son plan divin du bonheur, en Jésus-Christ et en son sacrifice expiatoire, et de parvenir à la conversion durable. Une foi et conversion ainsi accrues nous aideront à contracter et à respecter des alliances avec Dieu, affermissant ainsi notre désir de suivre Jésus et produisant chez nous une transformation spirituelle sincère. En d'autres termes, nous transformant en une nouvelle créature, comme Paul l'a enseigné dans son épître aux Corinthiens. Grâce à cette transformation, notre vie sera plus heureuse, plus productive et plus saine, et nous conserverons une perspective éternelle. N'est-ce pas exactement ce qui est arrivé à l'eunuque éthiopien après qu'il a pris connaissance du Sauveur et s'est converti à son Évangile? Les Écritures disent que, joyeux, il poursuivit sa route. Le commandement d'apprendre l'Évangile et de nous l'enseigner les uns aux autres n'est pas nouveau. Il a été maintes fois répété depuis le début de l'histoire de l'humanité. En une certaine occasion, pendant que Moïse et son peuple étaient dans les plaines de Moab avant d'entrer dans la terre promise, le Seigneur l'incita à exhorter les Israélites à s'acquitter de leur responsabilité d'apprendre les lois et les alliances qu'ils avaient reçues du Seigneur et de les enseigner à leurs descendants, dont beaucoup n'avaient pas vécu personnellement la traversée de la mer Rouge, ni la révélation donnée sur le mont Sinaï. Moïse exhorta ainsi son peuple, je cite, « Maintenant, Israël, écoute les lois et les ordonnances que je vous enseigne. Mettez-les en pratique, afin que vous viviez et que vous entriez en possession du pays que vous donne l'Éternel, le Dieu de vos pères. Enseignez-les à tes enfants et aux enfants de tes enfants. » Moïse conclut en disant, je cite, « Observe ces lois et ces commandements que je te prescris aujourd'hui, afin que tu sois heureux, toi et tes enfants après toi, et que tu prolonges désormais tes jours dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. » Fin de citation. Les prophètes de Dieu nous ont continuellement demandé d'élever nos enfants en les corrigeant et en les avertissant selon le Seigneur et dans la lumière et la vérité. Le président Nelson a récemment dit « À notre époque d'immoralité effrénée et de pornographie menant à la dépendance, les parents ont la responsabilité sacrée d'enseigner à leurs enfants l'importance de Dieu et de Jésus-Christ dans leur vie. Fin de citation. Frères et sœurs, l'avertissement de notre prophète bien-aimé est un rappel supplémentaire de notre responsabilité individuelle de nous efforcer d'apprendre et d'enseigner à nos familles que nous avons un Père céleste qui nous aime et qui a élaboré un plan divin du bonheur pour ses enfants, que Jésus-Christ, son Fils, est le Rédempteur du monde et que le salut s'obtient par la foi en son nom. Notre vie doit être ancrée sur le roc de notre Rédempteur, Jésus-Christ, ce qui nous permettra, individuellement et en famille, d'avoir nos propres impressions spirituelles gravées dans le cœur, nous aidant ainsi à persévérer dans notre foi. Vous vous rappellerez peut-être que deux disciples de Jean-Baptiste suivirent Jésus-Christ après avoir entendu Jean témoigner que Jésus était l'agneau de Dieu, le Messie. Ces hommes bons acceptèrent l'invitation de Jésus à venir et voir et restèrent auprès de lui ce jour-là. Ils apprirent que Jésus était le Messie, le Fils de Dieu, et ils le suivirent jusqu'à la fin de leur vie. De même, lorsque nous acceptons l'invitation du Sauveur de venir et de voir, nous devons rester auprès de lui, nous immerger dans les Écritures, nous réjouir en elles, apprendre sa doctrine et nous efforcer de vivre comme il a vécu. Alors seulement, nous le connaîtrons et reconnaîtrons sa voix, sachant que si nous allons à lui et croyons en lui, nous n'aurons jamais faim ni soif. Nous serons en mesure de discerner la vérité à tout moment, comme cela est arrivé aux deux disciples qui sont restés auprès de Jésus. Frères et sœurs, cela n'arrive pas par hasard. Se mettre au diapason des plus hautes influences de la divinité n'est pas une mince affaire. Cela exige que nous invoquions Dieu pour apprendre comment mettre l'évangile de Jésus-Christ au centre de notre vie. Si nous le faisons, je promets que l'influence du Saint-Esprit communiquera la vérité à notre cœur et à notre esprit et en témoignera, nous enseignant toutes choses. La question de l'Éthiopien « Comment pourrais-je comprendre si quelqu'un ne me guide ?» a aussi un sens particulier dans le cadre de notre responsabilité personnelle de mettre les principes de l'Évangile que nous avons appris en pratique. Par exemple, dans le cas de l'Éthiopien, il a agi sur la base de la vérité que Philippe lui a enseignée. Il a demandé à être baptisé parce qu'il est parvenu à la connaissance que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Frères et sœurs, nos actions doivent refléter ce que nous apprenons et enseignons. Nous devons montrer nos croyances par la vie que nous menons. Le meilleur instructeur est un bon modèle de comportement. Enseigner quelque chose que nous vivons véritablement changera les choses dans le cœur des personnes que nous instruisons. Si nous désirons que les gens, membres de notre famille ou pas, amassent avec joie les Écritures et les enseignements des apôtres et prophètes actuels, ils doivent voir notre âme s'en délecter. De même, si nous voulons qu'ils sachent que le président Nelson est le prophète, voyant et révélateur de notre époque, ils doivent nous voir lever la main pour le soutenir et se rendre compte que nous suivons ses enseignements inspirés, comme le célèbre dicton américain l'affirme, « Les actions sont plus éloquentes que les paroles ». Peut-être que certains d'entre vous à ce moment précis se demandent « Frère Suarez, j'ai fait tout cela et j'ai suivi ce modèle individuellement et en famille. » Mais malheureusement, certains de mes amis et êtres chers se sont éloignés du Seigneur. Que dois-je faire? Pour ceux d'entre vous qui connaissent actuellement cette tristesse, cette angoisse et peut-être ces regrets, sachez qu'ils ne sont pas totalement perdus parce que le Seigneur sait où ils sont et veille sur eux. Rappelez-vous, ils sont aussi ses enfants. Il est difficile de comprendre toutes les raisons pour lesquelles certaines personnes suivent un autre chemin. Le mieux que nous puissions faire dans cette situation est simplement de les aimer, de les prendre dans nos bras, de prier pour leur bien-être et de demander l'aide du Seigneur pour savoir quoi faire et quoi dire. Réjouissez-vous sincèrement avec eux de leur succès. Soyez leurs amis et cherchez ce qu'il y a de bon chez eux. Nous ne devons jamais les laisser tomber, mais préserver notre relation avec eux. Ne les rejetez et ne les méjugez jamais. Aimez-les tout simplement. La parabole du fils prodigue nous apprend que souvent, lorsqu'ils se ressaisissent, les enfants désirent rentrer à la maison. Si cela se produit avec vos êtres chers, emplissez votre cœur de compassion, courez à leur rencontre, serrez-les dans vos bras et embrassez-les, comme l'a fait le père du fils prodigue. Finalement, continuez de mener une vie digne. Soyez un bon exemple pour eux de ce que vous croyez et rapprochez-vous de notre Sauveur Jésus-Christ. Il connaît et comprend nos douleurs et chagrins profonds, nos chagrins profonds, et il bénira vos efforts et votre dévouement envers vos êtres chers, si ce n'est dans cette vie, dans la prochaine. Souvenez-vous toujours que l'espérance est une partie importante du plan de l'Évangile. Tout au long de nombreuses années de service dans l'Église, j'ai vu des membres fidèles appliquer ces principes avec constance. C'est le cas d'une mère seule que j'appellerai Marie. Malheureusement, Marie a connu un divorce tragique. À ce moment-là, Marie s'est rendue compte que les décisions les plus cruciales concernant sa famille seraient spirituelles. Est-ce que la prière, l'étude des Écritures, le jeûne et l'assiduité à l'Église et au Temple continueraient d'être importants pour elle? Marie avait toujours été fidèle et à ce moment décisif, elle a décidé de s'accrocher à ce qu'elle savait déjà être vrai. Elle a puisé de la force dans la famille Déclaration au Monde, qui parmi de nombreux autres principes importants enseigne que les parents ont le devoir sacré d'élever leurs enfants dans l'amour et la droiture, et de leur apprendre à observer les commandements de Dieu. Elle a continuellement cherché des réponses auprès du Seigneur et en a parlé à ses quatre enfants chaque fois qu'ils étaient ensemble. Ils discutaient fréquemment de l'Évangile et se faisaient part de leurs expériences et de leurs témoignages les uns aux autres. En dépit des chagrins qu'ils ont traversés, ces enfants ont acquis l'amour de l'Évangile du Christ et le désir de servir et de le communiquer aux autres. Trois d'entre eux ont rempli fidèlement une mission à plein temps, et le plus jeune est actuellement en mission en Amérique du Sud. Sa fille aînée, qui est maintenant mariée et ancrée dans la foi, a dit, je cite, « Je n'ai jamais eu l'impression que maman nous élevait seule parce que le Seigneur était toujours dans notre foyer. Comme elle nous témoignait de lui, chacun de nous a commencé à se tourner vers lui pour lui poser ses questions. Je suis tellement reconnaissante qu'elle ait donné vie à l'Évangile. » Frères et sœurs, cette mère formidable a fait de son foyer un centre d'apprentissage spirituel. Comme la question de l'Éthiopien, Marie s'est demandé plusieurs fois, « Comment mes enfants peuvent-ils apprendre si une mère ne les guide ?» Mes chers compagnons dans l'Évangile, je vous témoigne que si nous nous efforçons avec ferveur, de tout cœur, fermement et sincèrement d'apprendre l'Évangile de Jésus-Christ et de nous l'enseigner mutuellement avec une intention réelle et sous l'influence de l'Esprit, ces enseignements transformeront les cœurs et donneront le désir de vivre conformément aux vérités de Dieu. Je témoigne que Jésus-Christ est le Sauveur du monde, il est le Rédempteur et il vit. Je sais qu'il dirige son Église par ses prophètes, voyants et révélateurs. Je témoigne aussi que Dieu vit, qu'il nous aime et veut que nous revenions auprès de lui. Tous, je témoigne de ces vérités au nom de Jésus-Christ. Amen.
J'ai vu un jour une pancarte dans une devanture de magasin sur laquelle était écrit « Bonheur, 15 $ ». J'étais si curieuse de savoir combien de bonheur je pouvais acheter pour 15 $ que je suis entrée dans le magasin pour me renseigner. J'ai trouvé beaucoup de bibelots et de souvenirs bon marché. Rien de ce que j'ai vu n'aurait pu m'apporter le genre de bonheur que la pancarte promettait. Au cours des années, j'ai pensé fréquemment à cette pancarte et à quel point il peut être facile de rechercher le bonheur dans des choses temporaires ou sans grande valeur. Nous, membres de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, nous avons la bénédiction de savoir comment connaître le vrai bonheur et où le trouver. On le trouve en s'appliquant à vivre l'Évangile de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ et en s'efforçant de devenir davantage semblable à lui. Un de nos amis chers était conducteur de train. Un jour, alors qu'il était aux commandes de son train, il a aperçu une voiture arrêtée sur la voie devant lui. Il s'est rapidement rendu compte que la voiture était bloquée sur la voie, dans l'impossibilité de la traverser. Il a immédiatement déclenché une procédure d'urgence qui a provoqué le freinage des wagons qui couvraient une distance de 1200 mètres et transportaient une charge d'environ 5900 tonnes métriques. Il n'y avait aucune possibilité matérielle que le train puisse s'arrêter avant de percuter la voiture. Les occupants de la voiture ont été heureusement avertis par le signal d'alarme du train et se sont échappés de la voiture avant le choc. Tandis que le conducteur s'entretenait avec le policier chargé de l'enquête, une femme s'est approchée d'eux, très en colère. Elle a crié qu'elle avait vu l'accident et a témoigné que le conducteur n'avait même pas essayé de faire un écart pour éviter la voiture. De toute évidence, si le conducteur avait pu faire une embardée et quitter la voie pour éviter l'accident, c'est le train tout entier qui aurait été perdu dans le déraillement et sa progression aurait été stoppée net. Heureusement, les rails sur lesquels roulait le train maintenaient les roues fermement sur leur axe, quels que soient les obstacles qui se trouvaient sur son chemin. Heureusement pour nous, nous nous trouvons aussi sur une voie, celle des alliances que nous avons faites lorsque nous avons été baptisés membres de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Bien que nous puissions rencontrer des obstacles au cours de notre existence, cette voie nous permettra de progresser vers notre précieuse destination éternelle, à condition que nous nous y tenions fermement. La vision de l'arbre de vie nous montre comment une attitude désinvolte peut nous éloigner du chemin des alliances. Notez que la barre de fer et le chemin étroit et resserré, ou chemin des alliances, conduisaient directement à l'arbre de vie, où toutes les bénédictions assurées par notre Sauveur et son expiation sont accessibles aux fidèles. La vision montrait également une rivière d'eau représentant la souillure du monde. Les Écritures disent que cette rivière coulait le long du chemin, mais passait seulement à proximité de l'arbre, mais ne conduisait pas à lui. Le monde est rempli de distractions qui peuvent tromper même les élus. Elles les rendent désinvoltes vis-à-vis de leurs alliances, ce qui les mène à proximité de l'arbre, mais pas à lui. Si nous ne prenons pas soin de respecter rigoureusement nos alliances, notre nonchalance finira peut-être par nous conduire dans des sentiers interdits ou nous faire rejoindre les personnes qui sont déjà entrées dans le grand et spacieux édifice. Si nous ne prenons pas garde, nous risquons même de nous noyer au fond d'une rivière souillée. On peut faire les choses, y compris vivre l'Évangile, avec application ou désinvolture. Dans notre engagement vis-à-vis du Sauveur, sommes-nous appliqués ou désinvoltes? Du fait de notre nature mortelle, ne cherchons-nous pas parfois à justifier nos comportements en disant qu'ils se trouvent dans une zone grise, c'est-à-dire qu'il mêle de bonnes choses à d'autres choses qui le sont moins. Chaque fois que nous disons « cependant, sauf » ou « mais » à propos de suivre les conseils de nos prophètes dirigeants ou de vivre soigneusement l'Évangile, nous disons en réalité « ce conseil ne s'applique pas à moi ». Nous pouvons nous justifier autant que nous le voulons. La réalité est qu'il n'y a pas de bonne façon de faire quelque chose de mauvais. Le thème des jeunes pour 2019 est tiré de Jean 14, 15, où le Seigneur donne l'instruction suivante. « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Si nous l'aimons comme nous l'affirmons, pouvons-nous montrer cet amour en étant un peu plus appliqués à respecter ses commandements? Être appliqué à vivre l'Évangile ne veut pas nécessairement dire devenir solennel ou rigide. Cela signifie que nos pensées et notre comportement sont ceux de disciples de Jésus-Christ. En réfléchissant à la différence entre être appliqué et désinvolte quant à notre manière de vivre l'Évangile, voici quelques idées à retenir. Nous appliquons-nous à bien respecter le jour du sabbat et à bien nous préparer à prendre la Sainte Cène chaque semaine? Pourrions-nous être plus appliqués dans nos prières et notre étude des Écritures? Ou nous impliquer plus activement dans le programme « Viens et suis-moi » pour les personnes et les familles? Sommes-nous appliqués dans notre culte au temple et respectons-nous avec application les alliances que nous avons contractées lors de notre baptême et dans le temple? Prenons-nous soin de notre apparence et portons-nous des vêtements pudiques, particulièrement dans des lieux et circonstances sacrées? Nous appliquons-nous à bien porter les sous-vêtements sacrés du temple? Ou bien les modes du monde nous dictent-elles une attitude plus désinvolte? Sommes-nous appliqués dans la façon dont nous servons les autres et dont nous remplissons nos appels dans l'Église? Ou sommes-nous indifférents et désinvoltes vis-à-vis de notre appel à servir? Sommes-nous prudents ou désinvoltes vis-à-vis de ce que nous lisons ou regardons à la télévision et sur nos appareils mobiles? Nous appliquons-nous à avoir un langage convenable? Ou utilisons-nous avec désinvolture des propos crus et vulgaires? La brochure « Jeunes, soyez forts » contient des principes qui, si nous les observons soigneusement, nous apporteront de grandes bénédictions et nous aideront à rester sur le chemin des alliances. Bien que rédigés dans l'intérêt des jeunes, les principes décrits dans cette brochure n'expirent pas au moment où nous quittons les programmes des jeunes gens et des jeunes filles. Ils s'appliquent à chacun d'entre nous de manière permanente. Un examen de ces principes peut nous montrer d'autres manières de vivre l'Évangile avec plus d'application. Nous ne transigeons pas sur nos principes pour être acceptés ou pour mettre quelqu'un à l'aise. Étant disciples de Jésus-Christ, nous devons édifier les gens et les amener à un niveau plus élevé et plus sacré, où eux aussi récolteront de plus grandes bénédictions. J'invite chacun d'entre nous à rechercher l'influence du Saint-Esprit afin de prendre conscience des changements qu'il doit effectuer pour être davantage en accord avec ses alliances. Je vous implore également de ne pas critiquer les autres personnes qui effectuent le même parcours. Le jugement m'appartient, dit le Seigneur. Nous suivons tous un processus de progression et de changement. Je trouve intéressante l'histoire des apostats amlicites racontée dans le livre de Mormon. Pour signaler à tout le monde qu'ils ne s'associaient plus à Jésus-Christ et son Église, ils s'apposèrent une marque distincte de rouge au front, visible de tous. À l'opposé, nous, disciples de Jésus-Christ, comment nous démarquons-nous? Les gens voient-ils facilement son image sur notre visage et savent-ils qui nous représentons par la manière appliquée dont nous menons notre vie? Comme peuple de l'Alliance, nous ne sommes pas censés nous mélanger au reste du monde. Nous avons été appelés un peuple à part. Quel compliment! Comme le monde entraîne de plus en plus les gens en direction du mal, nous devons être déterminés à demeurer fermement sur le chemin qui nous mène sain et sauf au Sauveur et élargir la distance qui existe entre notre vie fondée sur nos alliances et les influences du monde. Lorsque je réfléchis à l'obtention d'un bonheur durable, je me rends compte que nous nous trouvons parfois dans une zone grise. Les brouillards de ténèbres sont inévitables au cours de notre voyage sur le chemin des alliances. Les tentations et la désinvolture nous font parfois dévier de notre chemin de manière subtile, nous entraînent dans les ténèbres du monde et nous éloignent du chemin des alliances. Pour les fois où cela pourrait se produire, le président Nelson, notre prophète bien-aimé, nous a exhortés à revenir sur le chemin des alliances et à le faire rapidement. Combien je suis reconnaissante du don du repentir et du pouvoir d'expiation de notre Sauveur. Il est impossible de mener une vie parfaite. Un seul homme a pu vivre une vie parfaite tandis qu'il vivait sur cette planète terrestre. C'est Jésus-Christ. Frères et sœurs, bien que nous ne soyons pas parfaits, nous pouvons être dignes de prendre la Sainte Seigne, dignes des bénédictions du Temple et dignes de recevoir des révélations personnelles. Le roi Benjamin a témoigné des bénédictions et du bonheur que reçoivent les personnes qui suivent soigneusement le Sauveur. Et de plus, je désirerais que vous méditiez sur l'état béni et bienheureux de ceux qui gardent les commandements de Dieu. Car voici, ils sont bénis en tout, tant dans le temporel que dans le spirituel. Et s'ils tiennent bon avec fidélité jusqu'à la fin, ils sont reçus dans le ciel afin de pouvoir ainsi demeurer avec Dieu dans un état de bonheur sans fin. Peut-on acquérir le bonheur pour 15 dollars? Non. Ce n'est pas possible. Le bonheur profond et durable s'obtient en vivant intentionnellement et avec application l'Évangile de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen.
Un point de doctrine important et réconfortant de l'Évangile de Jésus-Christ est que notre Père Céleste aime ses enfants d'un amour parfait. Du fait de cet amour parfait, il nous bénit non seulement selon nos désirs et nos besoins, mais également selon sa sagesse infinie. Comme le prophète Néphi l'a déclaré simplement, « Je sais que Dieu aime ses enfants ». Une facette de cet amour parfait est l'implication de notre Père Céleste dans les détails de notre vie. Même lorsque nous n'en sommes pas conscients, nous ne le comprenons pas. Nous demandons l'inspiration divine et l'aide du Père par la prière fervente et sincère. Lorsque nous honorons nos alliances et nous efforçons d'être davantage semblables à notre Sauveur, nous avons droit à un flot constant d'inspiration divine grâce à l'influence du Saint-Esprit. Les Écritures nous enseignent « Votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez ». Et il connaît toutes les choses, car toutes les choses sont présentes devant ses yeux. Le prophète Mormon en est un exemple. Il n'a pas vu de son vivant les résultats de son œuvre. Cependant, il comprenait que le Seigneur le guidait soigneusement tout le temps. Lorsqu'il se sentit poussé à inclure les petites plaques de Néphi dans ses annales, il écrivit « Et je fais cela dans un but sage, car c'est ce qui m'est chuchoté selon l'inspiration de l'Esprit du Seigneur qui est en moi. Et maintenant, je ne sais pas tout. » Mais le Seigneur sait tout ce qui est à venir. C'est pourquoi il agit en moi pour que je fasse selon sa volonté. Mormon n'était pas au courant de la perte future des 116 pages manuscrites. Mais le Seigneur, lui, l'était. Et il avait préparé la voie pour surmonter cet obstacle longtemps avant qu'il ne se présente. Le Père est conscient de notre existence, connaît nos besoins et il nous aidera parfaitement. Parfois, cette aide est accordée à l'instant même où nous la demandons. Ou au moins rapidement après que nous la demandons. Parfois, nos aspirations les plus sincères et louables ne sont pas exaucées comme nous l'espérons, mais nous découvrons que Dieu a en réserve des bénédictions plus grandes. Et parfois, nos justes aspirations ne nous sont pas accordées dans cette vie. Je vais illustrer par trois récits les manières dont notre Père Céleste répond aux prières sincères que nous lui adressons. Le plus jeune de nos fils a été appelé à servir dans la mission de Paris en France. En préparation, nous sommes allés avec lui acheter les habituelles chemises, costumes, cravates, chaussettes, ainsi qu'un manteau. Malheureusement, le manteau qu'il voulait n'était pas actuellement en stock dans sa taille. Cependant, l'employé du magasin a indiqué qu'il serait de nouveau disponible dans quelques semaines et qu'il serait livré au centre de formation des missionnaires de Provo avant le départ de notre fils pour la France. Nous l'avons payé et nous n'y avons plus pensé. Notre fils est entré au centre de formation des missionnaires en juin et le manteau a été livré en août, quelques jours avant son départ. Il ne l'a pas essayé, mais il l'a rapidement rangé dans ses bagages, avec ses vêtements et d'autres affaires. À l'approche de l'hiver, à Paris, où notre fils servait, il nous a écrit qu'il avait sorti le manteau, l'avait essayé et qu'il avait découvert qu'il était beaucoup trop petit. Nous avons donc déposé des fonds supplémentaires sur son compte bancaire afin qu'il s'en achète un autre à Paris, ce qu'il a fait. Avec un peu d'irritation, je lui ai écrit et lui ai dit de donner l'autre à quelqu'un puisqu'il ne pouvait pas l'utiliser. Plus tard, nous avons reçu ce courriel de lui. Il fait très très froid ici. Le vent semble nous transpercer, bien que mon nouveau manteau soit bien et très épais. J'ai donné mon ancien à un autre missionnaire de notre appartement qui a dit qu'il avait prié pour trouver un moyen de se procurer un meilleur manteau. Il est converti depuis quelques années et il n'a que sa mère et le missionnaire qu'il a baptisé pour financer sa mission. Le manteau était donc la réponse à une prière et j'en ai été très heureux. Notre Père Céleste savait que ce missionnaire qui servait en France, à quelques 10 000 km de chez lui, aurait besoin d'urgence d'un nouveau manteau pour un hiver froid à Paris, mais qu'il n'aurait pas les moyens de s'en acheter un. Notre Père Céleste savait aussi que le magasin de vêtements de Provo, en Utah, enverrait à notre fils un manteau bien trop petit. Il savait que ces deux jeunes seraient ensemble à Paris et que le manteau serait la réponse à la prière humble et sincère d'un missionnaire ayant un besoin immédiat. Le Sauveur a enseigné « Ne vantons pas deux passereaux pour un sou, cependant il n'en tombe pas un à terre sans la volonté de votre Père, et même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Ne craignez donc point, vous valez plus que beaucoup de passereaux. » Dans d'autres situations, lorsque nos aspirations louables ne nous sont pas accordées comme nous l'avions espéré, cela peut être en fin de compte pour notre profit. Par exemple, Joseph, le fils de Jacob, était envié et haï par ses frères au point qu'il complotait son assassinat. Au lieu de cela, ils le vendirent comme esclave en Égypte. Si quelqu'un a pu avoir l'impression que ses prières n'étaient pas exaucées comme il l'espérait, c'était bien Joseph. En réalité, son malheur apparent lui a valu de grandes bénédictions et a sauvé sa famille de la famine. Plus tard, après être devenu un dirigeant de confiance en Égypte, avec une grande foi et une grande sagesse, il a dit à ses frères « Maintenant, ne vous affligez pas, ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Voilà 2 ans que la famine est dans le pays, et pendant 5 années encore, il n'y aura ni labour, ni moisson. Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister dans le pays et pour vous faire vivre par une grande délivrance. » Ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu. Pendant qu'il était à l'université, notre fils aîné a obtenu un emploi à mi-temps très enviable qui avait de bonnes chances de déboucher sur un excellent emploi permanent après ses études. Il y a travaillé dur pendant 4 ans, est devenu hautement qualifié et est aussi très respecté de ses collègues et de ses supérieurs. À la fin de sa dernière année d'études, presque comme si cela avait été orchestré par les cieux, au moins de l'avis de notre fils, le poste permanent s'est effectivement ouvert et il était le candidat favori. Tout indiquait qu'il aurait le poste et tout le monde s'y attendait. Eh bien, il n'a pas été embauché. Personne n'a compris pourquoi. Il s'était bien préparé, son entretien s'était bien passé, il était le candidat le plus qualifié et il avait prié avec beaucoup d'espoir. Il était effondré et accablé. Et l'ensemble de l'incident nous a tous laissés perplexes. Pourquoi Dieu l'avait-il abandonné dans ses justes aspirations ? Ce n'est que plusieurs années plus tard que la réponse est devenue évidente. S'il avait décroché l'emploi de ses rêves après son diplôme, il aurait manqué une occasion transformatrice indispensable qui s'est maintenant révélée être pour son bienfait éternel. Dieu connaissait la fin depuis le commencement, comme toujours, et dans ce cas, la réponse à tant de prières justes était non, au profit d'une issue nettement supérieure. Et d'autres fois, la réponse à une prière que nous désirons si intensément et sincèrement n'est pas donnée dans cette vie. À sa naissance, Patricia Parkinson avait une vue normale, mais à l'âge de 7 ans, elle a commencé à devenir aveugle. À 9 ans, elle a commencé à aller à l'école pour les sourds et les aveugles d'Ogden, en Utah, à quelques 150 km de chez elle, ce qui l'obligeait à être interne et à connaître, entre autres, tout le mal du pays qu'un enfant de 9 ans peut éprouver. À 11 ans, elle avait entièrement perdu la vue. Pat est rentrée chez elle de façon permanente à 15 ans pour y faire ses études secondaires. Elle est ensuite allée à l'université et elle a obtenu une licence en troubles de la communication et psychologie. Et après un combat héroïque contre le scepticisme des responsables des admissions, elle s'est inscrite en troisième cycle et a fait une maîtrise d'orthophonie. Pat travaille maintenant avec 53 élèves d'école primaire et supervise 4 orthophonistes dans son district scolaire. Elle est propriétaire de sa maison et de sa voiture que ses amis ou les membres de sa famille conduisent quand elle a besoin d'être véhiculée. À 10 ans, Pat avait rendez-vous pour un protocole médical de plus pour traiter sa vue faiblissante. Ses parents lui avaient toujours dit ce qui allait se passer au niveau de ses soins médicaux, mais ils ne lui avaient pas parlé de ce protocole. Quand ils lui ont dit qu'elle avait ce rendez-vous, Pat, pour employer les termes de sa mère, était dans tous ses états. Elle a couru dans une autre pièce, puis elle est revenue plus tard et elle a dit à ses parents avec indignation : « Je vais vous dire quelque chose. Je le sais, Dieu le sait, et c'est aussi bien que vous le sachiez aussi. Je vais être aveugle le reste de ma vie. » Il y a plusieurs années, Pat a rendu visite à des membres de sa famille qui habitent en Californie. Pendant qu'elle était dehors avec son neveu de 3 ans, le fils de son frère, il lui a dit « Tante Pat, pourquoi tu ne demandes pas à notre Père Céleste de te donner de nouveaux yeux ? Parce que si tu demandes à notre Père Céleste, il te donnera tout ce que tu voudras. Il suffit de lui demander. » Pat a dit qu'elle a été prise de court par la question, mais elle a répondu « Eh bien, parfois, notre Père Céleste n'agit pas comme cela. Parfois, il a besoin que tu apprennes quelque chose, alors il ne te donne pas tout ce que tu veux. Parfois, il faut attendre. Notre Père Céleste et le Sauveur savent mieux que tout le monde ce qui est bon pour nous et ce dont nous avons besoin. Ils ne vont donc pas t'accorder tout ce que tu veux au moment où tu le veux. » Je connais Pat depuis de nombreuses années et je lui ai récemment dit que j'admirais le fait qu'elle est toujours positive et heureuse. Elle a répondu « Ça se voit que tu n'as pas été avec moi chez moi. J'ai mes moments. J'ai eu des épisodes assez graves de dépression et j'ai beaucoup pleuré. » Néanmoins, elle a ajouté « Dès que j'ai commencé à perdre la vue, c'était étrange, mais j'ai su que notre Père Céleste et le Sauveur étaient avec ma famille et moi. Nous avons géré la situation au mieux et à mon avis, nous l'avons gérée de la bonne façon. » J'ai fini par réussir assez bien dans la vie et dans l'ensemble, j'ai été une personne heureuse. Je me souviens que la main de Dieu est dans tout. Aux gens qui me demandent si je suis en colère parce que je suis aveugle, je réponds « Contre qui serais-je en colère ?» Notre Père Céleste est avec moi dans cette épreuve, je ne suis pas seul, il est avec moi tout le temps. Dans ce cas, le désir de Pat de recouvrer la vue ne lui sera pas accordé dans cette vie. Mais la devise que son père lui a apprise est « Cela aussi passera ». Henry B. Eyring a dit « Le Père vous connaît, il connaît vos sentiments ainsi que les besoins spirituels et temporels de toutes les personnes qui vous entourent. » Cette grande vérité réconfortante sous-tend les 3 expériences que j'ai relatées. Frères et sœurs, parfois, nos prières sont exaucées rapidement et comme nous l'espérions. Parfois, nos prières ne sont pas exaucées comme nous l'espérions. Cependant, avec le temps, nous découvrons que Dieu nous réservait des bénédictions supérieures à celles que nous attendions. Et parfois, les prières justes que nous adressons à Dieu ne seront pas exaucées dans cette vie. Comme Neil A. Maxwell l'a dit, la foi comprend aussi la confiance dans le calendrier de Dieu. Nous avons l'assurance qu'à sa manière et en son temps, notre Père Céleste nous bénira et résoudra tous nos soucis, les injustices et les déceptions que nous connaissons. Je cite le roi Benjamin, « Et de plus, je désirerais que vous méditiez sur l'état béni et bienheureux de ceux qui gardent les commandements de Dieu. Car voici, ils sont bénis en tout, tant dans le temporel que dans le spirituel. Et s'ils tiennent bon, avec fidélité jusqu'à la fin, ils sont reçus dans le ciel, afin de pouvoir ainsi demeurer avec Dieu dans un état de bonheur sans fin. Oh, souvenez-vous que ces choses sont vraies, car le Seigneur Dieu l'a dit. Je sais que Dieu entend nos prières. Je sais qu'en Père omniscient et aimant, il y répond parfaitement, selon sa sagesse infinie, et pour notre plus grand bien. J'en témoigne au nom de Jésus-Christ. Amen.
Le chœur et l'assemblée chanteront à présent « Sauveur d'Israël », le numéro 5 dans le recueil de cantiques français. Après ce cantique, nous entendrons Dieter Uchtdorf du Collège des Douze Apôtres. Le chœur chantera ensuite « Chers enfants, sur vous Dieu veille ». Christopher Waddell, deuxième conseiller dans l'épiscopat président, prendra ensuite la parole.
This is the 189th annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
Mes chers frères et sœurs, mes chers amis, le mois dernier, les douze ont été invités par notre cher prophète Russell M. Nelson à l'accompagner à la consécration du Temple de Rome en Italie. Pendant notre trajet, j'ai pensé à l'apôtre Paul et à ses voyages. À son époque, il aurait fallu environ 40 jours pour aller de Jérusalem à Rome. Aujourd'hui, dans l'un de mes avions préférés, il faut moins de 3 heures. Les érudits de la Bible croient que Paul était à Rome quand il a rédigé plusieurs de ses lettres, lesquelles ont joué un rôle clé dans la fortification des membres de l'Église de l'époque et d'aujourd'hui. Paul et les autres membres de l'Église ancienne, les saints des premiers jours, savaient intimement ce qu'était le sacrifice. Beaucoup furent cruellement persécutés, parfois même jusqu'à la mort. Au cours des 200 dernières années, les membres de l'Église de Jésus-Christ rétablis, les saints des derniers jours, ont eux aussi subi des persécutions sous diverses formes. Mais en dépit de ces persécutions, et parfois grâce à elles, l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours a continué de grandir et se trouve à présent tout autour du globe. Cependant, avant de nous lancer dans la confection d'un gâteau, de jeter des confettis et de se congratuler les uns les autres pour ce succès remarquable, nous ferions bien de replacer cette progression en perspective. Il y a à peu près 7,5 milliards d'habitants dans le monde. Comparé aux quelques 16 millions de membres de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, un troupeau bien petit. En même temps, dans certaines parties du monde, le nombre de chrétiens croyants diminue. Même dans l'Église rétablie du Seigneur, bien que le nombre de membres continue d'augmenter, trop de gens ne profitent pas des bénédictions qui découlent de l'assistance régulière à l'Église. En d'autres termes, où que l'on se trouve sur la terre, il existe de nombreuses occasions de faire connaître la bonne nouvelle de l'Évangile de Jésus-Christ aux personnes que l'on rencontre, avec qui on étudie, on habite, on travaille ou que l'on fréquente. Durant l'année passée, j'ai eu l'occasion exaltante d'être profondément impliqué dans les activités missionnaires de l'Église à travers le monde. J'ai souvent médité et prié au sujet du grand commandement du Sauveur à ses disciples. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. J'ai retourné cette question dans tous les sens. Comment pouvons-nous, nous, membres et disciples du Christ, nous acquitter au mieux de cette grande mission dans notre vie quotidienne? Aujourd'hui, je vous invite à méditer sur cette même question dans votre cœur et votre esprit. Les dirigeants de l'Église mettent l'accent sur cet appel retentissant. Chaque membre, un missionnaire. Depuis des décennies, dans les temps anciens comme à l'époque actuelle, les membres de l'Église de Jésus-Christ ont annoncé et annoncent encore l'Évangile avec joie et enthousiasme à leurs amis et à leurs connaissances. Leur cœur est embrasé par le témoignage de Jésus-Christ et ils désirent sincèrement que les autres connaissent aussi cette joie qu'ils ont trouvée dans l'Évangile du Sauveur. Certains membres de l'Église semblent avoir un don pour cela. Ils aiment être des ambassadeurs de l'Évangile. Ils servent hardiment et joyeusement et dirigent l'œuvre en qualité de membres missionnaires. D'autres parmi nous se montrent plus hésitants. Quand il est question de l'œuvre missionnaire dans les réunions de l'Église, les têtes se baissent lentement jusqu'à disparaître derrière leurs sièges. Les yeux se fixent sur leurs écritures ou se ferment en profonde méditation pour éviter le contact visuel avec les autres membres. Pourquoi cela? Peut-être nous sentons-nous coupables de ne pas faire plus pour annoncer l'Évangile. Peut-être ne savons-nous pas comment nous y prendre. Ou peut-être n'osons-nous pas sortir de notre zone de confort. Je comprends cela. Mais rappelez-vous, le Seigneur n'a jamais exigé que nous soyons des experts ni parfaits dans nos efforts missionnaires. Au lieu de cela, le Seigneur exige le cœur et un esprit bien disposé. Si vous participez déjà à l'œuvre missionnaire avec joie, alors continuez et soyez un exemple pour les autres. Le Seigneur vous bénira. Si par contre vous avez le sentiment de traîner les pieds quand il s'agit de faire connaître l'Évangile, je vous suggère 5 choses que n'importe qui peut faire sans culpabilité pour participer au grand commandement du Sauveur d'aider à rassembler Israël. Premièrement, rapprochez-vous de Dieu. Le premier grand commandement est d'aimer Dieu. C'est la première raison pour laquelle nous sommes sur terre. Demandez-vous, est-ce que je crois vraiment en notre Père Céleste? Est-ce que je l'aime et lui fais confiance? Plus vous vous rapprocherez de notre Père Céleste, plus sa lumière et sa joie brilleront du fond de votre être. les gens remarqueront quelque chose d'unique et de spécial en vous, et ils poseront des questions. Deuxièmement, emplissez votre cœur d'amour pour les autres. C'est le second grand commandement. Essayez de voir vraiment chaque personne autour de vous comme un enfant de Dieu. Servez-la, que vous soyez ou non sa sœur ou son frère de service pastoral désigné. Riez avec elle, réjouissez-vous avec elle, pleurez avec elle, respectez-la, guérissez-la, élevez-la et fortifiez-la. Efforcez-vous d'être empreint de l'amour du Christ et de compassion envers les autres. Même ceux qui vous traitent méchamment, se moquent de vous ou cherchent à vous nuire. Aimez-les et traitez-les comme des enfants de notre Père Céleste. Troisièmement, efforcez-vous de suivre le chemin du disciple. Plus votre amour pour Dieu et ses enfants devient profond, plus votre engagement de suivre Jésus-Christ grandit. Vous découvrirez sa voix en vous faisant un festin de sa parole et en écoutant et en appliquant les enseignements des prophètes et des apôtres modernes. Vous acquérez davantage de confiance et de courage pour suivre sa voix en communiquant avec notre Père Céleste, le cœur disposé à recevoir ses enseignements. Suivre le chemin du disciple nécessite de la pratique, chaque jour, petit à petit, grâce sur grâce, ligne sur ligne. Tantôt, on avance de deux pas, tantôt, on recule d'un. L'important est de ne pas abandonner, de continuer d'essayer afin de bien le faire. Un jour, vous serez meilleur, plus heureux et plus authentique. Parler de votre foi aux autres deviendra naturel et normal. En fait, l'Évangile occupera une place si essentielle et si précieuse dans votre vie qu'il vous semblera anormal de ne pas en parler aux autres. Cela n'arrivera peut-être pas immédiatement. Cela exige les efforts de toute une vie, mais cela arrivera. Quatrièmement, exprimez ce que vous avez dans le cœur. Je ne vous demande pas de vous tenir debout au coin d'une rue avec un mégaphone et de crier des versets du Livre de Mormon. Ce que je vous demande, c'est de chercher toujours les occasions de parler de votre foi lors de vos échanges naturels et normaux avec les gens, en personne et en ligne. Je demande que vous soyez des témoins du pouvoir de l'Évangile en tout temps et, lorsque c'est nécessaire, que vous l'exprimiez par des mots. Parce que l'Évangile est une puissance de Dieu pour le salut, vous pouvez être confiant, courageux et humble en le faisant connaître. La confiance, le courage et l'humilité sont des qualités qui peuvent sembler contradictoires, mais elles ne le sont pas. Elles reflètent l'invitation du Sauveur de ne pas cacher les valeurs et les principes de l'Évangile sous un boisseau, mais de laisser votre lumière luire, afin que vos bonnes œuvres glorifient notre Père qui est dans les cieux. Il y a de nombreuses façons normales et naturelles de faire cela, d'actes quotidiens de gentillesse à des témoignages personnels sur YouTube, Facebook, Instagram ou Twitter, ou encore des conversations simples avec les personnes que vous rencontrez. Cette année, nous étudions le Nouveau Testament dans nos foyers et à l'école du dimanche. Quelle occasion merveilleuse d'inviter des amis et des voisins à l'église et chez vous, pour apprendre avec vous ce qui a trait au Sauveur. Montrez-leur l'application de la bibliothèque de l'Évangile, ou trouvez le programme « Viens et suis-moi ». Si vous connaissez des jeunes et leurs familles, donnez-leur le livre « Jeunes, soyez forts » et invitez-les à venir voir comment nos jeunes s'efforcent de suivre ces principes. Si quelqu'un vous demande comment s'est passé votre week-end, n'hésitez pas à lui parler de ce que vous avez fait à l'église. Parlez des petits-enfants qui se sont tenus devant l'assemblée et ont chanté avec enthousiasme comment ils essaient de ressembler à Jésus. Parler du groupe de jeunes qui a passé du temps à aider des personnes âgées en maison de retraite, à compiler leur histoire personnelle. Parler du changement récent relatif à nos réunions du dimanche et de la façon dont votre famille s'en trouve bénie. Ou expliquer pourquoi nous mettons l'accent sur le fait que l'Église est celle de Jésus-Christ et que nous portons le nom des saints des derniers jours. Tout comme les membres de l'Église ancienne étaient appelés saints eux aussi. De toutes les manières qui vous paraissent naturelles et normales, faites savoir aux gens pourquoi Jésus-Christ et son Église sont importants pour vous. Invitez-les à venir voir, puis encouragez-les à venir aider. Notre Église offre de nombreuses occasions de servir. Ne priez pas simplement pour que les missionnaires trouvent les élus. Priez quotidiennement de tout votre cœur afin que vous trouviez les personnes qui viendront et resteront. Tenez les missionnaires à plein temps au courant. Ils sont comme les anges, toujours prêts à aider. Quand vous faites part de la bonne nouvelle, faites-le avec amour et patience. Si nous interagissons avec les gens avec pour seule attente de les voir rapidement filer une combinaison blanche et demander le chemin des fonts baptismaux les plus proches, nous ne faisons pas ce qu'il faut. Certaines des personnes qui viendront voir ne se joindront peut-être jamais à l'Église. D'autres le feront peut-être plus tard, c'est leur choix. Mais cela ne modifiera pas notre amour pour elles, et cela n'affectera pas nos efforts enthousiastes pour continuer d'inviter des personnes et des familles à venir voir, venir aider, venir et rester. Cinquièmement, ayez confiance que le Seigneur accomplira ses miracles. Nous avons eu un message merveilleux d'Elder Hales à propos de cela. Comprenez que ce n'est pas votre rôle de convertir les gens. C'est le rôle du Saint-Esprit. Votre rôle consiste à exprimer ce que vous avez dans le cœur et à vivre en accord avec vos croyances. Donc ne vous découragez pas si quelqu'un n'accepte pas le message de l'Évangile immédiatement. Ce n'est pas un échec personnel. C'est une affaire entre la personne et notre Père Céleste. Ce qui vous incombe, c'est d'aimer Dieu et votre prochain. Croyez, aimez et agissez. Agissez ainsi et Dieu accomplira des miracles par votre intermédiaire pour bénir ses précieux enfants. Ces cinq suggestions vous aideront à faire ce que les disciples de Jésus-Christ font depuis les temps anciens. Son évangile et son Église constituent une part importante de votre vie, de ce que vous êtes et de ce que vous faites. Par conséquent, invitez les gens à venir voir et à venir aider, et Dieu accomplira son œuvre de salut, et ils viendront et resteront. Mais que faire si c'est difficile, pouvez-vous vous demander? Peut-être vous demanderez-vous, et si je fais tout ça et que les gens réagissent de façon décevante? Et s'ils critiquent l'Église et si nous cessons d'être amis? Oui, il est possible que ça arrive. Depuis les temps anciens, les disciples de Jésus-Christ ont souvent été persécutés. L'apôtre Pierre a dit, « Réjouissez-vous de la part que vous avez eue aux souffrances de Christ ». Les premiers saints se réjouissaient d'être jugés dignes de subir des outrages pour le nom de Jésus. Souvenez-vous, les voies du Seigneur sont impénétrables. Il se pourrait que votre réaction chrétienne face à un rejet, un cœur endurci, s'adoucisse. En ma qualité d'apôtre du Seigneur Jésus-Christ, je vous bénis afin que vous ayez la confiance nécessaire pour être des témoins vivants des valeurs de l'Évangile, le courage d'être toujours reconnu comme membre de l'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours, et l'humilité de participer à son œuvre par amour pour notre Père Céleste et ses enfants. Mes chers amis, réjouissez-vous de savoir que vous jouez un rôle important dans le rassemblement d'Israël depuis longtemps annoncé, en préparant la venue du Christ, qui paraîtra revêtu de puissance et d'une grande gloire avec tous les saints anges. Notre Père Céleste vous connaît. Le Seigneur vous aime. Dieu vous bénira. Cette œuvre est ordonnée de lui. Vous pouvez y participer. Nous pouvons tous le faire ensemble. J'en témoigne au nom de Jésus-Christ. Amen.
Il y a environ 18 mois, à l'automne 2017, mon frère Mike, âgé de 64 ans, m'a appris qu'il avait le cancer du pancréas. Il m'a également dit qu'il avait reçu une bénédiction de la prêtrise de son instructeur au foyer et qu'il avait eu un entretien avec son évêque
Plus tard, il m'a envoyé par MMS une photo du temple d'Oakland, en Californie, prise de l'hôpital où il était soigné et accompagné de cette légende « Regarde ce que je vois depuis ma chambre d'hôpital ». J'étais aussi surpris par ses commentaires sur les instructeurs au foyer, les bénédictions de la prêtrise, les évêques et les temples, que par son cancer. Voyez-vous, cela faisait près de 50 ans que Mike, prêtre dans la prêtrise d'Aaron, n'allait plus régulièrement à l'église. Notre famille était presque aussi intriguée par sa progression spirituelle que par ses progrès dans sa lutte contre le cancer, en grande partie à cause de ses questions maintenant fréquentes sur le livre de Mormon, le pouvoir de scellement et la vie après la mort. Au bout de quelques mois, et avec la propagation du cancer, ayant besoin de soins supplémentaires et plus spécialisés, Mike s'est finalement retrouvé au centre d'oncologie Huntsman en Utah. Peu après son arrivée, il a reçu la visite de John Holbrook, dirigeant de mission de la paroisse qui s'occupait de l'établissement de santé où Mike vivait désormais. John a expliqué qu'il avait semblé évident que Mike était un fils de Dieu. Et ils se sont rapidement liés d'amitié, si bien que John est devenu de fait le frère de service pastoral de Mike. Il l'a immédiatement invité à rencontrer les missionnaires, ce que mon frère a poliment refusé. Mais un mois plus tard, leur amitié s'étant renforcée, John lui a redemandé en expliquant « Je crois que cela te ferait du bien d'entendre le message de l'Évangile ». Cette fois-ci, l'invitation a été acceptée, ce qui a conduit à des rencontres fréquentes avec les missionnaires ainsi qu'à des visites de l'évêque, John Sharp, dont les conversations ont amené Mike à recevoir sa bénédiction patriarcale 57 ans après son baptême. Au début décembre de l'année dernière, après des mois de traitement, il a décidé de les arrêter, car les effets secondaires étaient lourds, et de laisser la nature suivre son cours. Les médecins nous ont informé qu'il restait à Mike environ 3 mois à vivre. Entre-temps, ses questions sur l'Évangile ont continué, ainsi que les visites et le soutien de ses dirigeants de la prêtrise locaux. Lors de nos visites à Mike, nous voyions souvent un exemplaire du Livre de Mormon ouvert sur sa table de chevet, pendant que nous discutions du rétablissement de l'Évangile, des clés de la prêtrise, des ordonnances du Temple et de la nature éternelle de l'homme. Mi-décembre, il avait reçu sa bénédiction patriarcale et semblait en fait reprendre des forces. Et un diagnostic d'au moins 3 mois supplémentaires paraissait probable. Nous avons même fait des plans pour qu'il se joigne à nous à Noël, au jour de l'an et au-delà. Le 16 décembre, j'ai reçu un coup de téléphone inattendu de l'évêque, frère Sharp, m'apprenant que le président de Pieux et lui avaient eu un entretien avec Mike. Il avait trouvé digne de recevoir la prêtrise de Melchisedec. Il me demandait à quel moment je serais disponible pour prendre part à l'ordination. L'ordination a été programmée au vendredi 21 décembre. Le jour venu, ma femme, Carole et moi sommes arrivés à l'établissement de soins et immédiatement nous avons été interceptés dans le couloir près de sa chambre et informés que le pouls de Mike n'était plus perceptible. Nous sommes entrés dans la pièce et avons trouvé le patriarche, son évêque et son président de pieux qui attendaient. Et puis, Mike a ouvert les yeux. Il m'a reconnu. Il a fait comprendre qu'il pouvait m'entendre et qu'il était prêt à recevoir la prêtrise. 50 ans après que Mike a été ordonné prêtre dans la prêtrise d'Aaron, j'ai eu le privilège, assisté de ses dirigeants locaux, de conférer la prêtrise de Melchisedec et d'ordonner mon frère à l'office d'ancien. 5 heures plus tard, il est décédé, franchissant le voile pour retrouver nos parents en tant que détenteurs de la prêtrise de Melchisedec. Il y a exactement 1 an, le président Nelson a appelé chacun de nous à prendre soin de ses frères et sœurs d'une manière plus élevée, plus sainte. Parlant du Sauveur, il a enseigné que parce que cette Église est la sienne, nous, ses serviteurs, les servirons un par un, tout comme il l'a fait. Nous servirons en son nom, avec son pouvoir et son autorité, et avec sa bonté et son amour. En réponse à l'invitation d'un prophète de Dieu, des efforts remarquables pour servir chacun sont déployés dans le monde entier, aussi bien des efforts coordonnés lorsque les membres s'acquittent fidèlement de leur tâche de service pastoral que du service spontané lorsque tant d'eux font preuve d'amour chrétien devant des occasions inattendues. Dans notre propre famille, nous avons vu de près ce genre de service. John, l'ami et le frère de service pastoral de Mike et ancien président de mission, avait l'habitude de dire à ses missionnaires « Si quelqu'un est noté sur une liste comme « pas intéressé », n'abandonnez pas, les gens changent. » Il nous a ensuite dit, Mike a énormément changé. John a d'abord été un ami, offrant les encouragements et le soutien nécessaires. Mais son service ne s'est pas cantonné à des visites médicales, à des visites amicales. Il savait qu'un pasteur est plus qu'un ami et que l'amitié est magnifiée par le service. Il n'est pas nécessaire que quelqu'un souffre d'une maladie incurable pour qu'il ait besoin de service pastoral. Ce besoin se présente sous diverses formes et tailles. Un parent seul, un couple non pratiquant, un adolescent en difficulté, une mère surmenée, une épreuve de la foi, des problèmes financiers, de santé ou conjugaux, la liste est presque infinie. Cependant, comme mon frère Mike, personne n'est allé trop loin pour être hors de la portée aimante du Sauveur et il n'est jamais trop tard. Sur le site internet du service pastoral de l'Église, on nous enseigne « Bien que le service pastoral ait de nombreux objectifs, le désir d'aider autrui à approfondir sa conversion et à devenir plus semblable au Sauveur devrait guider nos efforts. » Neil A. Maxwell l'a dit ainsi. Une personne qui a bon cœur peut aider quelqu'un à réparer une roue, conduire son colocataire chez le médecin, déjeuner avec une personne triste ou sourire et dire bonjour pour ensoleiller une journée. Mais un disciple du premier commandement enrichira naturellement ses actes importants de service. En modelant notre service sur celui de Jésus-Christ, il est important de nous souvenir que ses efforts pour aimer, édifier, servir et bénir avait un objectif plus élevé que celui de satisfaire les besoins immédiats. Il était parfaitement au courant des nécessités quotidiennes des gens et avait compassion de leurs souffrances du moment lorsqu'il guérissait, nourrissait, pardonnait et enseignait. Toutefois, il voulait faire plus que satisfaire les besoins du moment. Il voulait que les personnes qui l'entouraient le suivent, le connaissent et atteignent leur potentiel divin. En cherchant à servir tout comme il l'a fait, nous aurons des occasions de nous oublier et d'édifier les autres. Ces occasions seront souvent inconfortables. Éprouver notre désir de devenir davantage comme le Maître, dont le plus grand acte de service, son expiation infinie, fut tout sauf confortable. Dans Matthieu chapitre 25, on nous rappelle les sentiments du Seigneur à notre égard, quand comme lui, nous sommes attentifs aux difficultés, aux épreuves et à l'adversité que tant de personnes affrontent, mais qui sont souvent ignorées. Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. Les justes lui répondront, « Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger et t'avons-nous recueilli ?» Et le roi leur répondra, « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. » Que ce soit dans le cadre du service pastoral, ou simplement lorsque nous apprenons que quelqu'un est dans le besoin, on nous recommande de chercher à être guidé par l'Esprit et ensuite à agir. Nous pouvons nous demander comment servir au mieux, mais le Seigneur, lui, le sait, et par son Esprit, il nous guidera. Comme Néphi, qui était conduit par l'Esprit, ne sachant pas d'avance ce qu'il allait faire, nous le serons nous aussi si nous nous efforçons de devenir des instruments dans les mains du Seigneur pour bénir ses enfants. En cherchant à être guidés par l'Esprit et en faisant confiance au Seigneur, nous serons placés dans des situations où nous pourrons agir et bénir, en d'autres termes, servir. À d'autres moments, nous percevrons peut-être un besoin, mais nous sentirons inaptes à le satisfaire, supposant que ce que nous avons à offrir est insuffisant. Faire tout comme il l'a fait, c'est servir en donnant ce que nous sommes en mesure de donner, confiant que le Seigneur magnifiera nos efforts pour le bien de nos compagnons de route dans ce voyage de la condition mortelle. Pour certains, il peut s'agir de faire don de temps et de talent. Pour d'autres, il peut s'agir d'un mot gentil ou d'un don solide. Bien que nous puissions trouver nos efforts inadéquats, Dallin H. Oaks a parlé d'un principe important concernant les choses petites et simples. Il a enseigné que les actes petits et simples sont puissants parce qu'ils invitent la compagnie du Saint-Esprit, un compagnon qui fait du bien aux donateurs et aux bénéficiaires. Sachant qu'il allait bientôt mourir, mon frère Mike a fait le commentaire suivant. « C'est remarquable comment un cancer du pancréas peut attirer votre attention sur ce qui est le plus important. Grâce à des hommes et des femmes merveilleux qui ont vu un besoin, n'ont pas jugé et ont servi comme le sauveur, il n'était pas trop tard pour Mike. » Certaines personnes changeront plus tôt, d'autres le feront peut-être de l'autre côté du voile. Néanmoins, nous devons nous souvenir qu'il n'est jamais trop tard et que personne n'a jamais erré suffisamment loin du chemin pour être hors de portée de l'expiation infinie de Jésus-Christ, dont la durée et l'ampleur sont illimitées. Lors de la dernière conférence générale d'octobre, Dale G. Renlund a enseigné « Peu importe depuis combien de temps nous avons quitté le chemin, dès que nous décidons de changer, Dieu nous aide à revenir. » Cette décision de changer, cependant, est souvent le fruit d'une invitation, telle que « Je crois que cela te ferait du bien d'entendre le message de l'Évangile. » Tout comme il n'est jamais trop tard pour le Sauveur, il n'est jamais trop tôt pour inviter. Cette période de Pâques nous offre une fois de plus l'occasion merveilleuse de méditer sur le grand sacrifice expiatoire de notre Sauveur Jésus-Christ et sur ce qu'il a fait pour chacun de nous à un prix énorme, un prix qui, il l'a dit, l'a fait trembler de douleur, lui le plus grand de tous. Il a dit, néanmoins, j'ai bu et j'ai terminé tout ce que j'avais préparé pour les enfants des hommes. Je témoigne que parce qu'il a accompli, il y a toujours de l'espoir. Au nom de Jésus-Christ, amen.
Nous remercions toutes les personnes qui se sont adressées à nous jusqu'à présent et remercions le chœur pour sa belle performance musicale. Le chœur chantera maintenant « Je suis enfant de Dieu ». Notre dernier orateur sera Henry Eyring, deuxième conseiller dans la première présidence. Après son discours, le chœur terminera la réunion en chantant « Hosanna au grand roi ». Ensuite, Wilford Andersen, des 70, fera la prière de clôture.
Mes chers frères et sœurs, je suis reconnaissant d'avoir été invité à vous adresser la parole en cette 189e conférence générale de l'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours. À cette date de l'an 1830, Joseph Smith a organisé l'Église sous la direction du Seigneur. Cela s'est passé dans la maison des Whitmer, à Fayette, État de New York, aux États-Unis. 6 membres, ainsi qu'une cinquantaine d'autres personnes intéressées, étaient présents ce jour-là. Bien que ne sachant pas ce que le prophète Joseph a dit, ni l'apparence qu'il avait quand il s'est tenu devant ce petit groupe, je sais ce que ces personnes dotées de foi en Jésus-Christ ont ressenti. Elles ont ressenti le Saint-Esprit et elles ont senti qu'elles se trouvaient en un lieu saint. Elles ont sûrement ressenti qu'elles étaient unies, ne faisant qu'un. Ce sentiment miraculeux est celui que nous aspirons tous à avoir dans notre foyer. C'est un sentiment dont Paul dit qu'il vient du fait de l'affection de l'esprit. Mon but aujourd'hui est de vous enseigner ce que je sais, de la façon dont nous pouvons nous qualifier pour éprouver ce sentiment plus souvent et l'inviter à demeurer plus longtemps au sein de notre famille. Comme vous le savez par expérience, ce n'est pas facile à faire. La querelle, l'orgueil et le péché doivent être tenus à distance. L'amour pur du Christ doit pénétrer le cœur des membres de notre famille. Adam et Ève, Léhi et Saria, et d'autres parents que nous connaissons par les Écritures, ont trouvé que c'était un défi difficile à relever. Toutefois, il existe des exemples encourageants de félicité au sein de familles et de foyers pour nous rassurer. Et ces exemples nous montrent comment nous pouvons y parvenir, nous et notre famille. Souvenez-vous de ce qui est relaté dans 4 Néphi. Et il arriva qu'il n'y eut pas de querelle dans le pays à cause de l'amour de Dieu qui demeurait dans le cœur du peuple. Et il n'y avait pas d'envie, ni de discorde, ni de tumulte, ni de fornication, ni de mensonge, ni de meurtre, ni aucune sorte de lascivité. Et assurément, il ne pouvait y avoir de peuple plus heureux parmi tout le peuple qui avait été créé par la main de Dieu. Il n'y avait pas de brigands ni d'assassins, et il n'y avait pas non plus de lamanites ni aucune sorte d'ite, mais ils étaient un, enfants du Christ et héritiers du royaume de Dieu. Et comme ils étaient bénis, car le Seigneur les bénissait dans toutes leurs actions, oui, ils furent bénis et rendus prospères, jusqu'à ce que 110 ans fussent passés, et la première génération, depuis le Christ, s'en était allée. Et il n'y avait pas de querelle dans tout le pays. Comme vous le savez, cette époque heureuse n'a pas duré éternellement. Le récit dans 4 Néphi décrit les symptômes à l'origine du déclin spirituel d'un groupe de gens bien. C'est un modèle qui s'est répété à travers les âges parmi des peuples entiers, des assemblées et, plus triste encore, des familles. En l'étudiant, nous verrons comment protéger et même accroître les sentiments d'amour au sein de notre famille. Voici le modèle de déclin qui est apparu après 200 ans d'existence dans la paix parfaite qu'apporte l'Évangile. L'orgueil s'est installé peu à peu. les gens ont cessé de partager ce qu'ils avaient les uns avec les autres. Ils ont commencé à se diviser en classes, au-dessus ou au-dessous les uns des autres. Ils ont commencé à régresser dans leur foi en Jésus-Christ. Ils se sont mis à se haïr. Ils se sont mis à commettre toutes sortes de péchés. Les parents sages se montrent suffisamment vigilants pour remarquer ces symptômes s'ils se manifestent chez les membres de leur famille. Et bien sûr, ils s'en soucient. Mais ils savent que la cause sous-jacente en est l'influence de Satan, qui s'efforce de conduire les gens bien vers le chemin du péché, de sorte qu'ils perdent l'influence du Saint-Esprit. Aussi, les parents sages voient-ils que la solution consiste à amener chacun de leurs enfants et eux-mêmes à accepter plus pleinement l'invitation du Seigneur à venir à lui. Il est possible que vous ayez un succès relatif en demandant à l'un de vos enfants de se repentir, par exemple, de son orgueil. Vous essayez peut-être de persuader vos enfants de partager plus généreusement ce qu'ils ont. Vous leur demandez peut-être de cesser de se sentir supérieur aux autres membres de la famille. Mais se manifeste alors le symptôme décrit ainsi. Ils ont commencé à régresser dans leur foi en Jésus-Christ. Là se trouve la clé pour amener votre famille à s'élever jusqu'au niveau spirituel auquel vous aspirez pour elle et pour y être avec elle. Si vous aidez les membres de votre famille à faire grandir leur foi que Jésus-Christ est leur Rédempteur aimant, ils éprouveront le désir de se repentir. Alors, l'humilité commencera à remplacer l'orgueil. Quand ils commenceront à percevoir ce que le Seigneur leur a donné, ils voudront partager plus généreusement. Les rivalités causées par le besoin de dominer ou d'être reconnu diminueront. La haine sera chassée par l'amour. Et finalement, comme cela s'est produit pour le peuple converti par le roi Benjamin, le désir de faire le bien les fortifiera contre la tentation de pécher. Le peuple du roi Benjamin a témoigné qu'il n'avait plus de disposition à faire le mal. Il est donc nécessaire de commencer par édifier la foi en Jésus-Christ pour inverser le déclin spirituel de votre famille et de votre foyer. Cette foi conduira plus probablement au repentir qu'un prêche condamnant chacun des symptômes de déclin spirituel. Le meilleur moyen de diriger sera votre exemple. Les membres de votre famille et les autres doivent vous voir accroître votre foi en Jésus-Christ et en son évangile. Vous avez obtenu récemment une aide précieuse. Dans l'Église, les parents sont bénis d'avoir reçu un programme inspiré pour les familles et les personnes. En l'utilisant, vous édifierez votre foi au Seigneur Jésus-Christ et celle de vos enfants. Votre foi au Sauveur a grandi lorsque vous avez suivi la recommandation du président Nelson de relire le livre de Mormon. Vous avez souligné des passages et des mots qui font référence au Sauveur. Votre foi en Jésus-Christ s'est accrue. Mais comme une jeune plante, cette foi se flétrira, à moins que vous ne restiez constamment résolu à méditer et à prier pour la faire croître. L'exemple de votre progression dans la foi ne sera peut-être pas suivi par tous les membres de votre famille sur le champ. Mais puisez du courage dans ce qu'a vécu Alma le jeune. Dans son besoin douloureux de se repentir et d'être pardonné, il s'est souvenu de la foi en Jésus-Christ que son père avait. Vos enfants se rappelleront peut-être votre foi au Sauveur à un moment où ils auront désespérément besoin de se repentir. Alma a dit de ce moment, et comme j'étais ainsi torturé par le tourment, tandis que j'étais déchiré du souvenir de mes nombreux péchés, voici, je me rappelais aussi avoir entendu mon Père prophétiser au peuple la venue d'un certain Jésus-Christ, un Fils de Dieu, pour expier les péchés du monde. Alors, quand mon esprit s'empara de cette pensée, je m'écriai au donnant de mon cœur, « Ô Jésus, Fils de Dieu, sois miséricordieux envers moi qui suis dans le fiel de l'amertume et suis enserré par les chaînes éternelles de la mort. » Et alors voici, lorsque je m'en sais cela, je ne puis plus me souvenir de mes souffrances. Oui, je n'étais plus déchiré par le souvenir de mes péchés. En plus de l'exemple de votre progression dans la foi, vos prières en famille jouent un rôle crucial dans vos efforts pour faire de votre foyer un lieu sacré. Généralement, on choisit une personne pour faire la prière pour la famille. Quand cette prière s'adresse clairement à Dieu, en faveur des personnes qui sont agenouillées et qui écoutent, la foi augmente en chacune d'elles. Elles ressentent l'amour qui est exprimé pour notre Père Céleste et pour le Sauveur. Et quand la personne qui prie mentionne celle qui, agenouillée dans le cercle familial, se trouve dans le besoin, toutes ressentent l'amour partagé par chacun des membres de la famille. Même si tous les membres de la famille ne vivent pas au foyer, la prière tisse des liens d'amour. La prière en famille traverse les frontières. Plus d'une fois, j'ai appris qu'un membre de ma famille au loin avait prié au même moment et pour le même motif que moi. Je trouve que le vieil adage disant que la famille qui prie ensemble reste ensemble devrait être étendu à la famille qui prie ensemble reste ensemble, même quand elle est séparée. Parce qu'aucun de nous n'est parfait et qu'il est facile de heurter les sentiments des autres. Les familles ne peuvent devenir des sanctuaires sacrés que si nous nous repentons promptement et sincèrement. Les parents montrent l'exemple. On peut se repentir promptement et sincèrement de mots durs et de pensées indélicates. Un simple « je suis désolé » peut guérir les blessures et susciter le pardon et l'amour. Joseph Smith, le prophète, a été un modèle pour nous par la manière dont il a réagi aux attaques violentes et aux traîtres. Il pardonnait promptement, tout en sachant que l'agresseur attaquerait peut-être encore. Il demandait le pardon et accordait le sien généreusement. Les fils de Mosia étaient déterminés à apporter l'Évangile à tout le monde. Ce désir venait du fait qu'ils s'étaient repentis personnellement. Ils ne supportaient pas l'idée que quiconque dût subir les effets du péché, comme cela avait été le cas pour eux. Alors ils ont affronté des années de rejet, de difficultés et de dangers pour offrir l'Évangile de Jésus-Christ à leurs ennemis. Au cours de ce processus, ils se sont réjouis du repentir des nombreuses personnes qui recevaient la joie du pardon accordé par l'expiation de Jésus-Christ. Les membres de notre famille verront grandir leur désir de faire connaître l'Évangile lorsqu'ils ressentiront la joie du pardon. Cela pourra même se produire tandis qu'ils renouvellent leurs alliances en prenant la Sainte Cène. L'esprit missionnaire grandira dans notre foyer. Si enfants et parents ressentent la joie du pardon lors du service de la Sainte Cène. Par leur exemple de révérence, parents et enfants s'aideront mutuellement à éprouver cette joie. Celle-ci peut faire beaucoup pour transformer notre foyer en centre de formation missionnaire. Tous ne feront peut-être pas une mission, mais tous éprouveront le désir d'annoncer l'Évangile qui leur a permis de ressentir le pardon et la paix. Et qu'ils soient actuellement en mission à plein temps ou non, chacun peut connaître la joie d'apporter l'Évangile aux autres. Aussi bien pour les parents que pour les enfants, le temple est la meilleure occasion de ressentir ce que sont des lieux saints et de les aimer. C'est particulièrement vrai lorsque les enfants sont jeunes. Les enfants naissent dotés de la lumière du Christ. Même un bébé peut percevoir que le temple est sacré. Parce que les parents aiment leurs jeunes enfants, le temple représente pour eux l'espérance qu'ils auront leurs enfants et pourront les aimer à jamais au sein de leur famille éternelle. Certains d'entre vous ont des photos de temples chez eux. Au fur et à mesure que se construisent de nouveaux temples dans le monde entier, il devient possible pour de nombreux parents de visiter ces sites avec leur famille. Quelques-uns ont même la possibilité d'assister aux visites guidées des temples construits. Les parents peuvent demander à leurs enfants ce qu'ils ressentent en étant près d'un temple ou à l'intérieur. Chaque parent peut témoigner de ce qu'un temple a signifié pour lui. Ezra Taft Benson, qui aimait les temples, a souvent raconté qu'il regardait sa mère repasser soigneusement ses vêtements du temple. Il a parlé du souvenir qui lui est resté de son enfance lorsqu'il observait sa famille quitter la maison pour aller au temple. Quand il était président de l'église, il se rendait au temple le même jour, chaque semaine. Il accomplissait toujours l'œuvre du temple pour un ancêtre. Cela venait en grande partie de l'exemple de ses parents. Vous trouverez certaines de vos plus grandes joies dans vos efforts pour faire de votre foyer un lieu de foi au Seigneur Jésus-Christ et empreint d'amour, l'amour pur du Christ. Le rétablissement de l'Évangile a débuté avec une humble question, méditée dans un humble foyer, et il se poursuivra dans chacun de nos foyers si nous continuons d'y établir et d'y mettre en pratique les principes de l'Évangile. C'est là mon espoir et mon désir le plus profond, depuis mon plus jeune âge. Vous avez tous pu avoir des aperçus de ce genre de foyer. Beaucoup d'entre vous, avec l'aide du Seigneur, en ont fondé. Certains se sont efforcés d'obtenir cette bénédiction de tout leur cœur, mais elle ne leur a pas encore été accordée. La promesse que je vous fais est celle qu'un membre du Collège des Douze Apôtres m'a faite un jour. Je lui avais dit qu'en raison des choix que certains membres de ma famille avaient faits, je doutais que nous serions ensemble dans le monde à venir. Il a dit, pour autant que je m'en souvienne, « Vous vous souciez du mauvais problème. Vous devez seulement vivre de manière à être digne du royaume céleste et les ajustements familiaux seront bien plus merveilleux que ce que vous pouvez imaginer. » Je crois qu'il aurait étendu cet heureux message d'espoir à chacun de nous dans la condition mortelle qui avons fait tout notre possible pour nous qualifier, nous et notre famille, pour la vie éternelle. Je sais que le plan de notre Père Céleste est un plan de bonheur. Je témoigne que ce plan permet à chacun de nous, dans la mesure où nous faisons de notre mieux, d'être scellés dans une famille pour toujours. Je sais que les clés de la prêtrise remise à Joseph Smith ont été transmises dans une ligne ininterrompue jusqu'au président Nelson. Ces clés rendent le scellement des familles possible aujourd'hui. Je sais que notre Père Céleste nous aime, nous, ses enfants d'esprit, d'un amour parfait. Je sais que grâce à l'expiation de Jésus-Christ, nous pouvons nous repentir, être purifiés et devenir dignes de vivre à jamais dans une famille aimante auprès de notre Père Céleste et de son Fils bien-aimé, Jésus-Christ. J'en témoigne que c'est vrai. Au nom de Jésus-Christ. Amen.
Rejoice, the Lord is King.
Notre cher Père Céleste, nous nous réjouissons. Nous nous réjouissons dans notre connaissance que tu es notre Père et de notre foi en ton Fils Jésus-Christ, bien-aimé. Et pour cette grande espérance que ce nous apporte, nous nous réjouissons dans le rétablissement de l'Évangile, dans cette dernière dispensation et pour l'œuvre accomplie par le prophète Joseph Smith. Nous nous réjouissons d'avoir un prophète aujourd'hui. Nous aimons le président Nelson. Nous le soutenons de tout notre cœur. Nous nous réjouissons dans l'esprit que nous avons ressenti aujourd'hui, tous ensemble. Et nous nous souvenons de tous ceux qui ont des besoins particuliers, ici et au loin, dans le monde entier. Nous t'aimons, notre Père. Et nos cœurs se tournent vers eux. Veuille être avec eux et avec nous, pour que nous puissions leur tendre la main comme jamais auparavant, pour être leurs amis et leur proposer notre amitié et notre soutien. Veuille nous bénir pour que l'esprit d'amour, d'espérance et de joie que nous avons ressenti ici ce matin reste avec nous pendant toute cette conférence et au-delà. Nous le prions au nom de Jésus-Christ. Amen.
This has been a broadcast of the 189th Annual General Conference of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Speakers were selected from the general authorities and general officers of the church. Music was provided by the Tabernacle Choir at Temple Square. This broadcast has been furnished as a public service by Bonneville Distribution. Any reproduction, recording, transcription, or other use of this program without written consent is prohibited.